n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités, c'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Jean de Guéry, président du département de l'Ain, est notre invité. Il a présenté ses vœux à la presse, nous l'avons interrogé sur les projets pour 2023.
Faire du vélo, même l'hiver, l'agglomération de Bourg vous aide à prendre votre deux roues. Je suis allée à la station, un lieu pour tout savoir, pour rouler en sécurité.
Et tout de suite, votre actu en bref.
Bourg en bref.
Ce jeudi, c'est la grève contre la réforme des retraites.
Et elle sera aussi suivie dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Le rendez-vous est donné à 14h au champ de foire pour une manifestation intersyndicale. On en reparle la semaine prochaine.
Putain de guerrière 01 alerte sur les violences faites aux femmes.
L'association engagée dans l'Ain contre les violences intrafamiliales appelle à se mobiliser. Rendez-vous ce samedi 21 janvier à 14h devant la préfecture de Bourg-en-Bresse. Avant le Covid, l'association avait lancé ce rendez-vous chaque troisième samedi du mois. Cette date marque donc la reprise de ce rassemblement mensuel. À ce jour, 147 femmes sont mortes en un an. Elles ont toutes été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons. Des chiffres que nous toutes, le collectif féministe nationale engagée contre les violences sexistes et sexuelles.
Capitale française de la culture 2024, ça sera Montbéliard.
L'agglo de Bourg-en-Bresse faisait partie des finalistes pour les agglomérations, avec les agglomérations d'Alès et de Montbéliard. Le ministère de la Culture l'a annoncé vendredi dernier. Dans un communiqué, Jean-François Debat, le maire de Bourg, a remercié les acteurs culturels, artistes et associations mobilisés pendant un an pour cette candidature et d'affirmer, je le cite, « la ville et l'agglomération poursuivront leurs efforts pour inscrire la culture dans le quotidien des habitants ». Ce label distingue tous les deux ans le projet culturel d'une commune ou d'un groupement de communes de 20 000 à 200 000 habitants. C'est Villeurbanne dans le Rhône qui avait inauguré le label en 2022. Et pour financer son projet, l'agglomération de Montbéliard va toucher 1 million d'euros en 2024.
Combien sommes-nous en France? Début de la campagne de recensement à Bourg-en-Bresse.
C'est du 19 janvier au 25 février, un recensement en version papier ou en ligne. Les agents recenseurs déposeront les formulaires ou les identifiants pour se recenser sur Internet dès ce jeudi. Si vous êtes concerné, vous avez déjà dû recevoir un courrier. Répondre à cette enquête est obligatoire. Les réponses restent confidentielles et seront transmises à l'INSEE. Attention, les agents recenseurs ont une carte officielle. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la mairie.
Lire et se faire peur.
C'est le thème des Nuits de la Lecture 2023. C'est du 19 au 21 janvier. Les médiathèques de Bourg, Camus, Césaire et Vaillant vous proposent différents rendez-vous, frissons et horreurs au programme. Lecture sous la tente, conférence comptée sur les méchants dans les contes ou encore un quiz horrifique. Pour l'occasion, les médiathèques veilleront un peu et fermeront à tour de rôle leurs portes à 21h. Tout le programme sur culture.bourg-en-bresse.fr.
L'invité de Radio B.
Investir massivement dans ce département. C'est l'annonce faite par Jean de Guéry, le président Les Républicains du département de l'Ain. Il a souhaité ses vœux à la presse la semaine dernière. L'année 2022 a été une année compliquée avec son lot de crises, la hausse des coûts de l'énergie et l'inflation. Pour 2023, le département s'attend à peu près à la même chose. Mais Jean de Guéry, son président, l'a affirmé. Ils vont investir massivement comme l'année dernière. Un budget d'investissement comme en 2022 au-dessus des 150 millions d'euros. Les domaines de compétences du département, l'action sociale, la gestion des collèges ou encore l'entretien des routes sont financés grâce au budget de fonctionnement. Et il y a les frais d'investissement, là où le département va agir même si ce n'est pas de sa compétence. Jean de Guéry et son équipe ont donc choisi d'investir en particulier sur la sécurité, la santé et l'aide aux communes.
Donc nous allons investir dans la sécurité, même si ce n'est pas notre compétence, en équipant les communes de caméras de vidéosurveillance, nos sapeurs-pompiers de caméras piétons et l'entrée de nos collèges aussi pour les sécuriser. Donc c'est de l'investissement, c'est une chose importante parce qu'on se rend bien compte que les incivilités comme l'insécurité vont grandissant dans ce département comme ailleurs et qu'il nous faut le prendre à la base et surtout lutter contre ça.
Au sujet des collèges, pour installer les caméras, il faut l'accord de la mairie, la direction académique et du principal. Trois collèges sont déjà équipés, deux à Oyonnax et un à Miribel. Et ceux qu'ils seront prochainement, Victoire Daubier et Jeanne d'Arc à Bourg-en-Bresse, Saint-Exupéry à Amberieu-en-Bugey, Yvon Moranda à Saint-Denis-les-Bourgs et Saint-Charles à Feillan. Du côté de la santé, le département multiplie les actions et expérimentations pour tenter de convaincre des médecins de s'installer dans l'Ain. 10 postes de médecins salariés ont été ouverts.
Nous avons un médecin qui est embauché pour l'instant.
Dans quel endroit ?
Qui exerce sur le coin de Saint-Sorlin-en-Bugey. Et aujourd'hui, nous avons des touches avec deux autres médecins, mais c'est quelque chose qui est long à se mettre en place. On le voit, les communes, on va plus vite non plus, et les intercommunés également. C'est en ajoutant toutes ces actions qu'au fur et à mesure, on rendra ce département attractif.
On parle aussi donc de cette maison médicale donc, qui serait ouverte aux professionnels de santé. Où en est ce projet ?
Alors le projet est en cours, puisque en cours d'étude. Nous avons missionné un cabinet qui est en train de faire une expertise pour implanter ce projet qui va être soutenu aussi bien par l'État que par la région, je le rappelle. Donc il doit voir le jour prochainement, mais on est dans les temps.
Peut-être de rappeler un petit peu les objectifs de cette maison des internes.
C'est une maison qui a de l'hébergement pour les médecins en cours, les futurs médecins aussi. C'est un lieu aussi d'échange et d'informations entre eux. Bref, c'est quelque chose qui est demandé et qui répond aussi à des besoins de médecins itinérants parce qu'il en existe. Et donc, c'est important d'avoir ça pour se différencier des autres départements aussi et rendre ce département attractif en matière de démographie médicale.
L'Ain accueille aussi depuis la rentrée 2022 le PASS, la formation parcours spécifique Access Santé. Elle permet d'accéder aux études de médecine, de kiné, de maïeuticien, de dentiste et de pharmacie. Un parcours proposé par Lyon 1 à Bourg-en-Bresse. Jean de Guéry l'annonce, des négociations sont en cours pour accueillir la 4e et 5e année de médecine à Bourg. Les étudiants feraient alors leur externat à Flériat. Une formation est aussi proposée aux médecins généralistes pour leur permettre d'accueillir des stagiaires. Faire revenir les médecins dans l'Ain est un pari pour le président du département. Un pari à conjuguer avec la hausse des habitants. L'Ain gagne environ 5000 habitants par an selon l'INSEE. Après la sécurité et la santé, autre priorité du département pour investir les communes, ce qui représente environ 15 millions d'euros d'aide par an. Le département les accompagne aussi à diminuer leurs dépenses d'énergie et de préciser qu'aider les communes génère aussi des dépenses pour réaliser des travaux.
Et on revient maintenant aux compétences propres du département.
L'action sociale, la gestion des collèges ou encore l'entretien des routes, pour tout ce qui touche au social, comme l'aide aux personnes âgées ou en situation de handicap, Jean de Guéry l'affirme, il n'y aura aucune baisse dans ce domaine.
Le niveau social, c'est le cœur du réacteur, c'est la première des compétences du département. Et là-dessus, nous y portons toute une attention particulière et les moyens qui vont avec.
Quelles actions particulières à venir dans ce domaine, dans les années à venir ?
Alors, surtout pour pouvoir recruter du personnel médical et médico-social, il faut absolument valoriser ces métiers. C'est la raison pour laquelle nous allons investir dans une flotte de véhicules pour que les personnes qui vont porter leurs soins à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées puissent le faire avec des frais en moins parce que nos véhicules seront là. Donc c'est important, c'est aussi valoriser et attirer ces nouveaux métiers parce que dans un département qui gagne de la population, les besoins vont croissant et notamment en termes de personnes âgées aussi et de personnes handicapées.
Autre volet du domaine social, le versement du RSA, le revenu de solidarité active, l'Ain compte 5000 bénéficiaires. L'année dernière, le département a proposé à certains d'entre eux de faire quelques heures de bénévolat. L'idée avait été lancée en 2016 par le département du Haut-Rhin. Invalidé un temps par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour d'appel de Nancy, le dispositif a finalement vu le jour sous trois conditions à la suite de la saisie du Conseil d'État par le département du Haut-Rhin. Le contrat prévu par le département doit, je cite, être élaboré de façon personnalisée. Les actions de bénévolat doivent contribuer à une meilleure insertion du bénéficiaire et rester compatibles avec sa recherche d'emploi. L'année dernière, le département de l'Ain a expérimenté ce dispositif et a donc proposé à certains bénéficiaires du RSA de faire quelques heures de bénévolat.
Alors on a mis en place cette action bénévolat RSA Bien sûr, ce n'est pas une obligation, c'est sur la base du volontariat. Nous avions misé sur une cinquantaine de personnes en fin d'année, nous en sommes à 140 pratiquement, donc on a triplé l'objectif. Je voudrais remercier les entreprises, les associations, les communes qui nous ont aidés là-dessus, parce que si on veut que les personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis trop longtemps puissent retrouver confiance en elles, il faut leur donner un tremplin. Et je pense que passer par la case bénévolat, aussi bien dans une association sportive, culturelle, dans une mairie, dans une entreprise, leur permet de reprendre confiance, de recréer du lien et ensuite de retrouver un emploi. Et je peux vous dire que ça a l'air de fonctionner, donc on va bien sûr amplifier cette démarche.
Jean de Guéry, le président du département de l'Ain. On termine ce tour des vœux avec un point tourisme. Certaines communes souffrent du manque de neige. Un plan lancé par le département veut les aider à trouver des activités à proposer en hiver et en été. Parmi les grands événements en 2023, Jean de Guéry a parlé entre autres du Salon de l'agriculture à Paris en février. L'Ain y sera présent. Il a rappelé que 32 000 personnes en vivent dans le département. Il y aura aussi un forum économique avec les plus de 300 entreprises origine Ain. Côté sportif, l'Ain accueillera deux étapes du Tour de France, dont une totalement dans le département, le 14 juillet entre Châtillon-sur-Chalaronne et le Grand Colombier, et une arrivée à Bourg-en-Bresse le 20 juillet. En 2024, Paris accueillera les Jeux Olympiques. Les collégiens indinois travailleront donc cette année sur les valeurs de l'olympisme. Et le département a définitivement dit non au passage de la flamme olympique. 180 000 euros sont demandés. Un budget plus cher qu'une étape du Tour de France et avec moins de retombées économiques, c'est justifié Jean de Guéry.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 100-120 ans.
En reportage avec Radio B.
Faire du vélo, même l'hiver, c'est possible.
Qui n'a pas déjà rangé son vélo dans le garage depuis que la pluie et le froid rythment notre quotidien? Et pourtant, on peut encore rouler l'hiver, même quand la nuit tombe. Il suffit d'être bien équipé, avec des vêtements chauds et adaptés, mais aussi avec des lumières pour être bien visible et donc en sécurité. Colin, en stage à Radio B, a rencontré un cycliste toujours motivé pour venir à vélo, même l'hiver.
Alors, je m'appelle Albin Martel, j'habite sur Montvel-en-Bresse et puis je viens travailler là, sur Bourg tous les jours.
Vous faites tous les jours le trajet de votre domicile à votre lieu de travail en vélo. Pourquoi vous avez choisi le vélo comme moyen de transport?
D'abord pour ne pas avoir acheté une deuxième voiture et puis ensuite je préfère vraiment beaucoup plus faire du vélo que de faire de la voiture.
Et en hiver, la nuit tombe tôt, donc vous portez quelque chose pour être plus visible?
Ah bah là oui, là il faut, c'est limite obligatoire si on veut ressortir, vivant. Bah il faut avoir une chasuble de sécurité, là les gilets jaunes. Et puis je dirais un bon éclairage pour être vu. Et puis pour voir aussi quand on sort de la ville, pour voir où on avance dans le noir complet.
Pour encourager la pratique du vélo, même l'hiver, l'agglomération de Bourg-en-Bresse a lancé un jeu concours dans le contexte de l'événement Cycliste Briller, organisé par la Fédération française des usagers de la bicyclette. Les participants devaient répondre à trois questions, comme notamment à combien est l'amende si on n'est pas équipé en lumière en cas de faible visibilité. Alors Audrey, à votre avis ?
Je dirais une vingtaine d'euros.
Eh bien, c'est 11 euros minimum. Les gagnants ont été tirés au sort et ont reçu un casque lumineux en ce début d'année. De quoi être bien visible. À la station, au bureau de Grand Bourg Agglomération situé juste à côté de la gare, on peut louer des vélos électriques, mais aussi obtenir des informations sur comment circuler à vélo. Je suis venue avec mon vélo pour savoir s'il était bien équipé pour rouler la nuit. Et c'est Damien qui m'accueille. Donc là, j'ai ramené mon vélo à moi. Donc c'est un vélo type Peugeot, assez ancien, pas trop équipé a priori. Donc qu'est-ce qui manque à ce vélo pour que la nuit, il n'y ait pas de problème si je circule la nuit?
Alors là, c'est flagrant. Du coup, on va observer tout de suite les roues. Donc comme on peut le voir, il manque les catadiopes. Donc c'est des petits dispositifs le réfléchissant qu'on met justement sur les rayons. Donc au moins avec les feux des voitures, ça brille. Donc là, au moins, on est vu assez loin. Donc il y en a sur les pédales, mais pas sur les roues. Donc c'est déjà un bon début, on va dire. L'avant, j'ai vu que vous avez une petite lampe, donc c'est bien. Donc au moins, ça permet de vous voir en face. Et au moins aussi, la nuit, vous pouvez voir ce qui se passe sur votre chemin. Par contre, à l'arrière, il manque un feu. Alors, il y est, mais l'ampoule n'est pas là.
C'est ça, l'ampoule est cassée. Il n'y a pas le couvercle qui est tombé aussi.
Donc voilà, il va manquer du coup le feu arrière. Après, on peut voir que le dispositif de sonnette est pas mal. Donc,
un peu d'huile.
Un petit peu d'huile, une sonnette assez ancienne, donc gravée Bourg-en-Bresse, qu'on a pu le voir, c'est génial. Après, que dire ? Après, ça va être surtout aussi sur la personne. Donc, le vélo englobe une partie de sécurité, donc on voit le vélo en lui-même. Par contre, du coup, nous, on monte sur ce véhicule, donc voilà. Il faut être vu le plus possible. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre beaucoup de dispositifs sur le vélo. Par contre, nous, si on transporte un sac, un casque, etc., on va pouvoir mettre plusieurs petites lampes, des gilets réfléchissants.
Et donc, selon la loi, qu'est-ce qui manque sur ce vélo ou sur moi pour que je puisse rouler la nuit sans avoir d'amende?
Alors, les catadiopes, là, ça va être sur ce vélo-là, les catadiopes. Alors, il y en a sur les pédales, mais ça ne suffit pas. Et bien sûr, le feu arrière. Donc là, une voiture qui arrive derrière vous ne vous voit absolument pas. Ils vont à peine apercevoir les pédales, en fait, les catadiopes. Mais la voiture sera déjà trop près de vous, en fait, le temps qui voit vraiment le dispositif réfléchissant. Donc, ce n'est pas assez suffisant. Donc là, on conseille le gilet jaune et bien sûr, un feu arrière assez puissant. Que les lumières soient assez importantes pour permettre aux autres usagers de vous voir.
Okay. Est-ce que des gens viennent vous voir sur ce sujet-là, d'être visible la nuit ou pas spécialement?
Alors, si, il y a des gens, du coup, surtout en période d'hiver, des gens ont parfois un petit peu peur de la circulation, etc. Donc, les gens viennent beaucoup, bien sûr, nous demander des questions. Comment il faut que je m'équipe? Comment il faut que je fasse? Donc, c'est vrai que la période hivernale est un peu compliquée. Il faut essayer de se protéger de l'ensemble des usagers. Faire attention.
Et dans un placard au fond de la station, Damien va me montrer les différents équipements qu'il possède pour être visible la nuit. Alors, premier outil pour être visible.
Alors, c'est pas des catadiopes comme on peut voir sur tous les vélos orange. Là, ça a des bâtonnets réflecteurs pour rayons de vélo. Donc, ces petits bâtonnets, en fait, c'est par 10. Donc, c'est un sachet de 10. Donc, on prend toujours une paire, en fait, qu'on donne aux usagers. Donc, au moins, ces bâtonnets, ils se détachent et ils vont se fixer sur les rayons. Donc, au moins, vous pouvez faire tous les rayons, même la plupart des rayons, bien sûr. Et là, en fait, avec les feux de voiture, vous êtes vu très, très loin. Quoi. Ça éblouit pas mal. Sur le deuxième, donc là, tout le monde peut le connaître. Donc, c'est ce que j'ai dans les mains. C'est un gilet, justement, orange, donc réfléchissant avec le logo de la station. Donc, on a des tailles adultes et des tailles enfants. Donc, voilà, il y en a pour tout le monde. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça reste le meilleur, on va dire, le meilleur objet, en fait, où on peut être vu de très loin. Vous le portez sur vous, c'est plus grand que les petits catadiopes. Ça flash, donc au moins, là, c'est la nuit, on va dire, c'est indispensable. Donc, aussi bien pour les vélos et, j'en parle, pour les trottinettes électriques. Que là, ça devient un bon fléau, mais voilà, ça n'empêche pas d'être vu et de voir la nuit. Et le dernier, du coup, outil, donc là, ça va être un petit sac, en fait, même un petit caouet, justement, pour le sac. Par rapport au gilet, il est fluo, mais jaune fluo, réfléchissant. Donc là, vous pouvez, enrober votre sac dans ce caouet. Vous tirez justement sur la cordelette, et là, du coup, ça vous fait vraiment le caouet qui protège le sac ou n'importe quoi. Vous pouvez mettre derrière le vélo, n'importe où. Et c'est étanche, en fait, du coup, voilà, ça protège vraiment de la pluie et vous êtes vu. Donc, c'est un nouveau dispositif qu'on a trouvé sympa, donc à mettre en valeur, du coup, pour les usagers.
Et pour rappel, chaque vélo doit avoir une sonnette, des bandes réfléchissantes rouges pour l'arrière, blanches pour l'avant et oranges pour les côtés. Sans ces équipements, la police peut vous mettre une amende. La station propose aussi des ateliers pour apprendre à se remettre en selle. Damien nous explique. La station propose aussi des vélo-écoles. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, la vélo-école, en fait, c'est une formation, on va dire, pour remettre en selle les personnes qui ont du mal à faire du vélo ou tout simplement qui ne savent pas faire du vélo. Donc, on a plusieurs modules. On a 4 modules. Le module 1, on a de la mise en selle, on a de la remise en selle, on a du déplacement en milieu urbain et là, on a de l'approfondissement. Donc, certaines personnes arrivent à faire du vélo mais n'ont pas confiance ou ça fait longtemps. Donc j'ai une dame, quand elle était jeune, voilà, elle avait fait du vélo. Et là, elle arrivait vers 70 ans, elle a pu, voilà, elle voulait refaire du vélo, la remise en selle, et elle y arrivait parfaitement. Donc c'est vraiment un petit coup de pouce. Après, sur la mise en selle, c'est des personnes souvent, voilà, des personnes qui ne savent pas faire du vélo, donc ne savent pas monter, ne savent pas pédaler. Donc là, voilà, il faut leur apprendre. Depuis le début, les bases, en fait, comment pédaler, comment se tenir en équilibre. Donc, ça demande un certain temps. Donc, on le fait souvent sur 10 séances. Donc, voilà, on le fait sur le marché couvert, enfin, sous le marché couvert. Donc, les personnes peuvent s'inscrire. Donc, c'est à titre gratuit. Donc, les personnes viennent à la station. On prévoit une date. Et bien sûr, il faut que les personnes soient motivées. Donc, on fait un petit test avant pour être sûr que les personnes veuillent vraiment se former sur ça. Et après, bon, les cours sont lancés.
Et si jamais vous avez peur de vous faire voler votre vélo, vous pouvez aussi lui mettre un code. C'est un service pris en charge par l'agglomération. À la station, vous proposez un autre service, c'est le marquage des vélos. En quoi ça consiste ?
Alors, le marquage des vélos, donc, c'est un marquage bicycode. Donc, tous les vélos doivent être marqués en fait, depuis le 1er janvier 2021. Donc, dès qu'ils sortent de chez un concessionnaire, les vélos ont un petit numéro. Donc c'est un service qui est offert aussi par l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Donc le vélo va être gravé et là on va envoyer justement ce numéro au client, donc grâce à son adresse email. Et là ça va faire comme une carte grise en fait du vélo. Donc une fois que le vélo est, par exemple, est volé, il faut aller porter plainte. Les forces de l'ordre vont demander s'il est marqué. Donc là au moins il va être détecté comme quoi il a été volé dans un fichier. Et là, sur votre fichier, vous pouvez le déclarer volé. Ça fait comme une carte grise, en fait. Donc, dès que vous vendez, par exemple, le vélo, vous le déclarez vendu. Donc, le nouveau propriétaire va prendre ce numéro et ainsi de suite. S'il est volé, au moins, s'il va dans une concession, que la concession prend le numéro, ils vont savoir tout de suite que ce n'est pas au client, en fait. Il n'appartient pas à ce client.
Est-ce que vous pouvez le faire sur le mur ?
Bien sûr. On va sortir la machine. On va se mettre ouais, par la bosse. Je vais le faire sur le côté. Donc là, c'est le numéro unique. En fait, c'est Bicycode en fait qui nous envoie justement chaque numéro. Donc un numéro par exemple est payant en fait. C'est un service normalement qui est payant. Donc voilà, on arrive, on a plusieurs feuilles avec plein de numéros. Après, on a juste à rentrer le code en fait dans une machine. Et après, on le fait à la main, on vient graver. Et là, en fait, on ne peut plus rien changer. En fait, chaque numéro est vraiment unique. Et bah, c'est parti. Donc, on va rentrer le code. Et bah, c'est parti. Hein.
Donc là, ça grave.
Alors là, ça va graver, ouais. C'est une petite toupie qui va venir graver. Tac. Hop. Donc là, on va passer un petit coup de craie juste dessus. En fait, c'est pour faire ressortir les numéros.
Alors, donc une fois qu'on a gravé le vélo.
Donc une fois qu'on a gravé le vélo, en fait, moi, je vais l'enregistrer du coup sur les bases de données de Bicycode. Donc on a un compte, la station en fait a un compte. Donc là je vais enregistrer vos coordonnées et bien sûr le nouveau numéro en fait qui a été mis sur votre vélo. Donc là au moins après vous allez recevoir un email où là il faudra vous connecter et en fait créer votre compte entre guillemets de Bicycode. Donc là une fois le compte est créé, vous pourrez retrouver en fait votre vélo qui a été identifié par nos soins.
Merci à Damien de m'avoir accueilli à la station et si vous voulez plus d'informations, c'est sur le site de Grand Bourg Agglomération.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h. Jean-François Debat, le maire de Bourg-en-Bresse, sera notre invité. Nous parlerons entre autres avec lui des projets de la municipalité pour 2023. Belle semaine sur nos ondes.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités, c'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre, pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.